Charline. Chapitre 12. Ma mère m'a toujours répété qu'il fallait voir le bon côté des choses, que derrière chaque difficulté, il y avait une opportunité. Elle a toujours été d'un optimisme à toute épreuve, et j'ai grandi avec l'idée qu'après la pluie, vient le beau temps. Mais ces derniers mois, j'ai l'impression que le soleil m'a légèrement oubliée. À force d'être trempée, je vais finir par avoir la peau toute fripée. Rebondir, se relever, aller de l'avant, tourner la page, ça demande de l'énergie, et je ne suis pas loin de penser qu'à 30 ans, elle commence à me faire défaut. Tout était plus simple lorsque j'étais enfant. La vie était douce et légère. Mon père dirigeait une pharmacie. J'adorais m'y rendre le samedi après-midi. Je tendais les sacs de médicaments aux clients, leur rendais la monnaie lorsqu'ils payaient en espèces. L'hiver, je leur conseillais de ne pas oublier de nouer leur écharpe autour du cou. L'été, de ne pas sortir sans chapeau. La clientèle était majoritairement composée d'habitués, si bien que je connaissais tout le monde. Certains m'achetaient parfois des bonbons au miel vendus dans de petites boîtes rondes en métal, aux couvercles décorés de jolis dessins. Je raffolais de ces bonbons, et gardais précieusement les boîtes, pour y ranger tout un tas de babioles aussi inutiles qu'indispensables. J'aidais aussi pour l'inventaire. Je m'asseyais par terre, je comptais les tubes de crème pour le change, les paquets de lingettes, et je notais consciencieusement les chiffres sur une feuille blanche, maintenu par un clip métallique sur un porte-bloc noir. Je me sentais importante. J'ai appris à lire en déchiffrant les étiquettes des médicaments, à coups de paracétamol, antispasmodique et autres amoxicilline. Pas évident à placer dans la cour de récréation, mais bien pratique lors d'une partie de Scrabble ou de Pendu. Ma mère s'occupait de moi et de la maison. Elle n'avait pas pu avoir d'autres enfants, alors elle disait qu'elle voulait passer chaque minute de son temps à me regarder grandir. Lorsque je remarquais qu'elle m'observait durant de longues minutes, je lui rétorquais « Maman, ça sert à rien de me fixer, je vais pas grandir d'un coup !» avant de rire avec elle. Elle m'accompagnait à l'école tous les matins et me récupérait à la sortie à 16h30. Le midi, je mangeais chez nous et j'échappais ainsi, m'attirant la jalousie de toutes mes copines, aux choux de Bruxelles, salsifis et autres légumes oubliés dont on comprend pourquoi ils le sont. Pour le goûter, elle tenait toujours à préparer quelque chose elle-même. Des crêpes, des gaufres, des cakes au citron. Elle disait que les biscuits industriels étaient bourrés de sucre et de mauvaise graisse. Aujourd'hui, je me réjouis qu'elle m'ait transmis ce goût de la cuisine. Mais à l'époque, j'aurais donné n'importe quoi pour un paquet de pépitos. L'été, nous partions en vacances en Bretagne. Mes parents louaient une petite maison à Pornichet. Je chérissais ces 3 semaines parce que je pouvais profiter pleinement de mon père. Il m'emmenait le matin très tôt à la pêche aux moules. Il me désignait celle qui avait la taille autorisée, et armée de ma cuillère, je m'attelais à les décrocher des rochers. Lui réussissait à le faire à main nue. Nous arpentions la plage pendant plusieurs heures, rien que tous les deux. Les bonnes journées, nous revenions avec un seau complet de moules que ma mère cuisinait le midi. Je les mangeais avec appétit tout en léchant mes doigts pleins de crème. L'après-midi, nous jouions aux raquettes sur la plage, essayant chaque jour de battre notre record d'échange de la veille. Malgré nos efforts et notre persévérance, nous ne sommes jamais parvenus à en faire plus de 100. Et puis, je passais des heures à nager, à jouer dans les vagues, à admirer les fonds marins, équipés de mon masque et de mon tuba. Quand la mer était calme, papa m'autorisait à l'accompagner jusqu'à la bouée, marquant la fin de la zone de baignade autorisée. Je me souviens que les premières années, je n'arrivais pas à l'atteindre, ce qui nous obligeait à faire demi-tour. Mais un jour, j'y suis parvenue. J'étais si fière. Ça fait partie de mes plus beaux souvenirs de vacances. Même si je regrettais parfois de n'avoir ni frère ni sœur, j'ai vécu une enfance heureuse, à laquelle je repense avec le sourire et beaucoup de nostalgie. J'avais 12 ans quand j'ai prié pour la première fois pour que la devise préférée de ma mère, « Après la pluie vient le beau temps », se vérifie. C'était un 26 juillet. Et ce jour-là, j'ai vu ma maison partir en fumée sous mes yeux. C'était un samedi soir. Le jour comme la date sont gravés à jamais dans ma mémoire. Nous avions regardé Fort Boyard à la télévision, tous les trois sur le canapé. Je crois que mes parents le faisaient pour me faire plaisir plus qu'autre chose. Ce n'était pas vraiment leur truc, mais en ce qui me concerne, j'étais à la fois fascinée et terrorisée par les épreuves mettant en scène les animaux du fort, scorpions, araignées, serpents. Je ne ratais aucun épisode. Chaque semaine, c'était doublement la fête parce que maman nous préparait un apéro dînatoire que nous prenions sur la table basse du salon. J'ai toujours préféré les aliments qui se mangent avec les doigts. Pas étonnant que j'aie choisi la pâtisserie, quand on y pense. Comme d'habitude, il y avait une multitude de mets sur la table. Des tomates cerises, des mini-sandwiches, des légumes à tremper dans différentes sauces, et surtout, ce que je préférais par-dessus tout, des croquettes jambon cru mozzarella, dans lesquelles je mordais avidement pour en laisser s'échapper un fil de fromage fondu. Cela compensait ma frustration de ne pas pouvoir mâcher de grosses bulles de chewing-gum, cette sucrerie étant proscrite à la maison. Ma mère avait en effet lu, je ne sais où, que si on en avalait un, il risquait de rester collé à nos intestins. Nous étions montés nous coucher sur le coup de minuit. Comme toujours, j'avais fait traîner les choses, cherchant à prolonger ce qui était pour moi la meilleure soirée de la semaine. Cette nuit-là, mon père m'a réveillée en pleine nuit, m'ordonnant de me lever. Il y avait déjà beaucoup de fumée dans ma chambre, et je me suis aussitôt mise à tousser. Il m'a tendu un chiffon humide et m'a dit de le placer sur mon nez et ma bouche. J'étais encore à moitié endormie, et tant mieux car je n'ai pas vraiment compris ce qui était en train de se passer, et cela m'a évité d'avoir peur. Mon père m'a attrapé fermement la main, et je lui ai emboîté le pas. Dans l'escalier, j'ai senti la chaleur des flammes que j'ai à peine eu le temps d'apercevoir avant de franchir le seuil de la maison. Heureusement, l'escalier donnait sur la porte d'entrée et nous avons pu sortir rapidement. Maman nous attendait dehors. Quand elle m'a aperçue, elle s'est précipitée vers moi et m'a prise dans ses bras pleurant de soulagement. C'était la première fois que je voyais ma mère, d'habitude si positive et optimiste, dans cet état. Et ça m'a bouleversée. Lorsque je me suis extraite de son étreinte et que je me suis retournée, je n'ai pu retenir un cri. Des flammes sortaient par la fenêtre de la salle de bain, des flammes gigantesques. C'est seulement à ce moment-là que j'ai pris conscience de ce qui se passait. Ma maison était en train de brûler. Mes affaires ! Il faut que j'aille récupérer mes affaires ! Les photos de mes amis, mes baskets et ma couverture de quand j'étais bébé ! Mais ma mère, devinant sans doute que j'étais sur le point de faire quelque chose de stupide, m'a retenue par le bras d'une poigne de fer. Jamais je ne l'aurais cru capable d'une telle force. « Maman, laisse-moi, il faut que j'y aille !» Je me suis mise à sangloter. Mon père, silencieux depuis que nous étions sortis de la maison, nous a attirés, ma mère et moi, jusqu'à lui pour nous enlacer. Mais ce jour-là, les bras de mon père n'ont pas suffi à m'apaiser, ni à me rassurer. Le temps que les pompiers arrivent, les flammes avaient tout envahi, faisant exploser les vitres sous le coup de la chaleur. Je ne pouvais détacher les yeux de la fenêtre de ma chambre, imaginant mes photos punaisées sur tout un pan de mur se racornir, puis prendre feu. Tous mes souvenirs, les sorties scolaires, les vacances à Pornichet, les soirées pyjama chez mes copines, toutes ces photos prises avec l'appareil que j'avais reçu à Noël 2 ans auparavant, et qui lui aussi allait probablement disparaître dans l'incendie. J'ai regardé les pompiers batailler pendant un temps qui m'a paru interminable, en chemise de nuit, pieds nus dans l'herbe, sans bouger. Nous n'avons pas prononcé un mot, tous les trois hébétés par ce qui venait de se produire et que jamais auparavant nous n'avions envisagé. D'ailleurs, c'est étrange quand on y pense. On redoute les accidents de voiture, les inondations, voire les tremblements de terre, mais on imagine rarement sa propre maison réduite en cendres. Ce soir du 26 juillet, nous avons tout perdu. Bien sûr, les pompiers sont parvenus à maîtriser les flammes, mais pour quel résultat ? De notre foyer, il ne restait plus rien hormis les murs et une toiture noircie. Tout le reste, tout ce qui constituait notre vie, nos meubles, nos vêtements, nos objets préférés, tout était parti en fumée. En à peine 2 heures. Nous n'avons jamais su comment l'incendie s'était déclaré. Sans doute un court-circuit avec un appareil resté branché. Peu importe. De toute façon, les conséquences étaient là. Après ça, j'ai entendu un nombre incalculable de fois que nous avions eu de la chance, parce que nous nous en étions sortis tous les trois vivants, et qu'au fond, c'était le plus important. Mais moi, du haut de mes 12 ans, je ne voyais pas du tout les choses de cette façon. Tout ce qui m'importait, c'était ce que nous avions perdu, et que nous ne récupérerions jamais. Alors que ma mère, fidèle à elle-même, est très vite repassée en mode positive attitude. Les semaines suivantes, nous avons dormi à l'hôtel. Elle me disait qu'il fallait considérer ça comme des vacances, que c'était super d'avoir un petit déjeuner tout prêt chaque matin et d'aller au restaurant tous les soirs. Pour elle, les repas chips jambon dans des assiettes en carton, assis sur la moquette de notre chambre d'hôtel, devenaient des pique-niques rigolos. Elle se réjouissait de l'occasion de faire du shopping pour renouveler ma garde-robe. De toute façon, j'avais tellement grandi qu'il était temps de m'acheter de nouveaux vêtements, affirmait-elle. Elle donnait l'impression de se faire une joie de toute cette situation. Je ne sais pas si elle cherchait à s'en convaincre elle-même. Je ne lui ai pas posé la question à l'époque. Au collège, j'étais devenue celle dont la maison avait brûlé. Le fait était suffisamment rare pour être sur toutes les lèvres. Et ce, pendant des semaines. On me demandait si j'avais eu peur, comment j'avais réussi à échapper aux flammes, si les pompiers qui étaient intervenus étaient canons. Oui, certaines de mes copines se posaient des questions assez étranges, vu les circonstances. Mais personne ne m'a jamais demandé ce que ça faisait de tout perdre en quelques heures à peine. Et quand je dis tout perdre, je ne dramatise pas. Au matin du 27 juillet, il ne me restait que la chemise de nuit et la culotte que je portais en allant me coucher. Rien d'autre. Pourtant, ce n'est pas ce à quoi les gens pensaient en premier quand ils apprenaient pour l'incendie. Plus on me répétait que j'avais eu de la chance de m'en sortir indemne, plus je me sentais égoïste de ne penser qu'au matériel. Mais c'était plus fort que moi. Il m'a fallu des années pour réussir à reprendre des photos, à m'attacher de nouveau aux objets. Pendant longtemps, je me suis dit que cela ne servait à rien puisque tout pouvait m'être enlevé en un instant. Je ne voulais plus recevoir de cadeaux d'anniversaire. Ma chambre restait vierge de toute décoration. Quand on ne possède rien, on ne peut plus rien perdre.